Bonsoir. On pourrait se demander, à juste titre, ce que nous faisons ici, pendant cette retraite. C'est vrai que si quelqu'un qui n'a jamais connu la méditation passait là, regardait par la fenêtre, on pourrait se poser quelques questions. Pourquoi tous ces gens dans une même pièce, assis sans se parler, sans... Ouais, il ne se passe rien, c'est un peu bizarre quand même. Il y aurait beaucoup de réponses à cette question et une façon de le voir, c'est qu'on accomplit un grand paradoxe. En étant immobile, nous cheminons. Nous cheminons sur le chemin de la compréhension du Dharma. Ce Dharma que le Bouddha nous a transmis il y a plus de 2500 ans. Et le Bouddha aborde le chemin dans différentes listes. Il y a des listes de 8, le chemin octuple. Il y a des listes plus courtes, comme les trois piliers du Dharma. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir la richesse de ce chemin. De voir que, en fait, le Bouddha, il ne parlait pas seulement de la pratique de la méditation comme entraînement de l'esprit uniquement. Et de voir qu'il y a une dimension qui inclut l'autre, qui est cette dimension éthique, qui parfois, en fait, le mot éthique, ça peut nous faire réagir. Moi, personnellement, j'ai été élevée dans une tradition catholique et j'ai ma propre histoire dessus. Et c'est vrai que quand on traduisait le terme de Sila, qui est le terme pali, comme moralité, ça avait tendance à peut-être à créer de l'aversion. Et ça m'a mis un peu du temps à comprendre aussi en fait, la richesse en fait, de cet enseignement. Au début, je pensais que en fait, méditer, c'était vraiment que l'assise. Et du coup, c'était dur pour moi de venir dans le monde. Et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait deux personnes. Il y avait Cécile qui méditait, qui faisait ses retraites de méditation. Puis il y avait Cécile qui devait faire face au monde qui était difficile, où j'étais pas forcément à l'aise, où je sentais comme une scission entre moi et le monde. Et en fait, la compréhension de l'éthique, ça m'a aidé à réconcilier en fait ces deux côtés, ces deux aspects, et de voir que ce chemin, c'est aussi dans la façon dont on est avec les autres, et aussi dans toutes les activités de la vie. Dans le Satipatthana Sutta, qui est un enseignement qu'on cite assez souvent ici, qui est l'enseignement sur les fondements de l'attention. Le Bouddha, il est super précis, puis il donne des... Enfin, il y a tellement de précision, il va nous dire que même aux toilettes, on peut être attentif, quoi. En fait, il n'y a rien qui est exclu de notre pratique. Tout peut être une pratique. Sur ce chemin, il y a une idée de cultiver aussi. Même pour l'entraînement de l'esprit, le Bouddha, il utilisait un terme pali, en tout cas qu'on trouve dans les suttas, qui est bhavana, la cultivation. Ça veut dire que, en fait, à l'époque du Bouddha, les gens vivaient beaucoup de l'agriculture, c'était leur quotidien. Et quand le Bouddha transmettait cet enseignement de la méditation, il parlait de quelque chose qui devait être fait chaque jour avec soin et qui faisait aussi partie de l'ordinaire. Donc c'est quelque chose qu'on cultive. C'est pas, comme Patricia a pu l'évoquer, c'est pas en un jour, c'est pas en une retraite qu'on va avoir beaucoup de choses dans notre assiette. Il faut vraiment prendre soin de cette pratique chaque jour. Il y a quelque chose qui est graduel. C'est pas immédiat. Et d'ailleurs, le Bouddha parlait d'un chemin graduel. Dans un des suttas, dans le Parahada Sutta, il compare ça à l'océan. Il dit que l'océan a un plateau graduel, il y a une pente progressive, sans précipice brusque. De même, dans cet enseignement et cette discipline, il y a un entraînement graduel, une pratique graduelle, un progrès continu. Le terme pali pour le chemin graduel, je trouve qu'il a... Il a un sens intéressant, hein, c'est Anupabhasika. Anu, ça veut dire suivre. Puba, c'est ce qui était avant. Et Sika, c'est se dévouer à l'entraînement. Donc ce que nous dit ce terme du chemin graduel en Pali, c'est que nous cheminons sur un chemin qui a déjà été parcouru, mais que malheureusement, ben, ça ne suffit pas, il faut que nous, on le parcourt aussi. Même si on était milliardaire et qu'on pouvait payer quelqu'un pour parcourir ce chemin à notre place, ben, ça ne marcherait pas. Donc c'est vraiment nous qui devons aller explorer ce chemin. Il y a une qualité qui est vraiment essentielle pour avoir, pour pouvoir aller sur ce chemin graduel, c'est la patience, Kanti en pali. C'est vraiment une des grandes qualités. Et dans le Dhammapada, le Bouddha parle de la patience conjointement à la clémence, en disant que ce sont des disciplines suprêmes. Disciplines suprêmes. C'est pas évident. C'est pas évident, ça l'était pas il y a plus de 2500 ans. Et moi, comme je le vois aujourd'hui, bah, la patience, c'est un beau challenge. C'est vrai que ça a pu être évoqué comme on est dans une société de l'immédiateté où on a cette habitude de pouvoir tout avoir rapidement. Je peux dire que j'ai connu un temps de l'avant-téléphone portable, un temps où j'ai eu la chance de parcourir un peu le monde avec un sac à dos sur le dos. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de réseau. Pour envoyer un email, il fallait trouver un cybercafé dans une grande ville. Et on envoyait de temps en temps, enfin j'envoyais de temps en temps un petit message à mes proches, « Tout va bien. » Je suis partie il y a quelques mois au Mexique et j'avais WhatsApp. Et dans l'endroit le plus reculé du Mexique, où il faut 3 heures de jeep, je pouvais envoyer un message instantanément à tout le monde, des photos, des vidéos. En fait, voilà, y a plus, c'est plus difficile, je crois, d'avoir cette qualité de pouvoir attendre. Christiane Singer, c'est une écrivaine qui a écrit un livre qui s'appelle « Où cours-tu ?» Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ? Et j'avais envie de vous partager un petit passage qui parle justement de notre civilisation. Elle dit « Il est difficile au milieu du brouhaha de notre civilisation, qui a le vide et le silence en horreur, d'entendre la petite phrase qui à elle seule peut faire basculer une vie. Où cours-tu ? De mode en mode, de nouveauté en nouveauté, d'innovation en innovation. En fait, ce mode de comportement est le plus ancien dont l'homme moderne est la ressource lorsqu'il y a un danger. Fuis, sauve-toi, cours pour ta vie. En courant, l'homme moderne tente d'esquiver la légion de fantômes à ses trousses. Il y a des fuites qui sauvent la vie devant un serpent, un tigre, un meurtrier. Il en est qui la coûtent. La fuite devant soi-même. Alors pour développer la patience, il faut faire une pause. Et c'est un peu ce qu'on fait ici, on met notre vie active en pause. Nous pouvons ici dans la pratique rencontrer cette qualité et rencontrer aussi son opposé, l'impatience. Nous apprenons à rencontrer des émotions difficiles, des douleurs physiques. Nous apprenons à rester avec. Un peu comme on peut faire mijoter un plat. On baigne un peu dedans. On baigne suffisamment de temps peut-être pour mieux connaître ce qui est là. Et puis ça demande une bonne dose de patience. Je me rappelle une retraite que j'avais faite où j'étais restée 15 jours. Et juste avant la retraite, en fait, j'ai eu un conflit assez important avec une personne. Et j'avais convenu un rendez-vous téléphonique avec cette personne à la sortie de la retraite. Et je dois dire que cette conversation, elle m'a accompagnée un certain temps, dans pas mal d'assises, et j'ai pu rencontrer la colère. Et c'était éprouvant, comme je pense pas mal d'entre vous, on peut vivre ça, de baigner dedans, d'aller à la rencontre de cette colère, d'aller sentir un peu ce qu'il y a en dessous. Par moments, des instants de liberté, et à nouveau la colère qui revenait. Ça m'a pris pas mal de jours, pas mal d'assises, pas mal de marches méditatives. Et puis, à un moment, le cadeau où elle a pu partir. C'est intéressant de vivre ça parce que ça nous permet vraiment de réaliser, comme Charles a pu le mentionner, que en fait, nos pensées, nos états mentaux ne sont pas des obstacles, en fait, c'est des portes pour la liberté. Mais pour cela, il faut passer par la patience et une bonne dose de courage de les rencontrer. Il y a un poète persan qui s'appelle Hafiz qui disait « Ne renonce pas aussi vite à ta solitude, laisse-la trancher plus profondément, laisse-la te faire fermenter et t'assaisonner comme peu d'ingrédients humains ou même divins le peuvent. » Alors ce qu'on apprend à faire ici, c'est d'éviter un premier écueil qui est de repousser en fait ces expériences douloureuses. De ne pas vouloir les rencontrer parce que peut-être en tant que yogi et méditant, on pense que en fait tout ça, c'est pas bien, que en fait on médite, certains d'entre nous, depuis un certain nombre d'années, que ça ne peut pas nous traverser en fait. Donc on accepte le fait qu'il y a une humanité et que cette humanité peut avoir aussi cet aspect-là. On évite aussi l'autre écueil qui est de se laisser emporter peut-être dans nos histoires, de nourrir les histoires qui nous traversent. Ce que j'appelle, moi, c'est l'éléphant qui est dans la pièce. En fait, on est là et on imagine qu'il y a un éléphant dans la pièce et on a très peur. Et puis à un moment, on se retourne et en fait, il n'y a rien. Il n'y avait jamais eu un éléphant. Mais il était très gros et il prenait beaucoup de place pour nous, en fait. On apprend à le rencontrer avec la patience, mais ce n'est pas non plus une patience où on serre ses dents, où on se dirait « ça va passer, je vais être avec, ça va passer ». Parce que ça aussi, ça serait une patience qui serait un peu tordue. Il y a quelques semaines, j'ai vu avec mon fils un dessin animé qui est Kung Fu Panda 4. Et dans Kung Fu Panda, il y a un maître qui s'appelle Maître Shifu. Alors Maître Shifu, il médite en lotus, il évite, et il a une petite phrase qui est « apaisé, apaisé, apaisé ». Et comme son disciple Kung Fu Panda n'est pas toujours un bon disciple, pendant sa méditation, il y a Kung Fu Panda qui apparaît partout au-dessus de sa tête, et ça devient « apaisé, apaisé, apaisé ». Alors ça m'a fait beaucoup rire parce que je me suis dit en fait, parfois on est un peu comme Maître Shifu. Je tiens avec ce truc. Et en fait, derrière, il y a un soupçon, soit de se dire que ça va passer, que c'est impermanent, comme toute chose, parce qu'on connaît les trois caractéristiques mentalement. Soit on se dit ok, je vais rencontrer, mais j'espère vraiment que ça ne va pas durer longtemps quand même. J'ai une semaine, si ça peut durer une ou deux assises, ça serait cool, quoi. Au moins d'avoir le reste tranquille, bien. Donc on apprend à avoir cette rencontre. C'est pas toujours facile d'être dans cette patience sans attente. Et parfois avoir aussi l'acceptation que peut-être ça ne passera pas. Avec Irène, on est venu ensemble et elle m'a partagé une petite histoire de Joseph Goldstein, qui, dans un entretien, avait dit que sa méditation avait totalement changé le jour où il avait accepté que peut-être la peur, non sans peut-être, que la peur pouvait être avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Donc parfois aussi, il y a pas... Voilà, ma petite histoire de la colère, c'est passé, c'est cool. Peut-être qu'elle reviendra d'ailleurs, sous d'autres formes. Mais aussi parfois, c'est juste d'être OK que... Voilà, ça peut être comme ça. Le mois passé, j'ai eu la chance d'être à côté de Patricia pour une retraite de dialogue conscient et yoga. Et il y a une phrase que tu as dite, alors j'espère que je vais bien la dire parce que tu es là, qui m'avait beaucoup touchée, qui tu avais dit, je crois, à peu près ça, « Nous méditons pour apprendre à être à l'aise avec l'inconfortable. » Waouh ! En fait, on apprend à avoir une plus habile réponse avec ce qui est inconfortable. Qui d'entre nous, depuis le début de cette semaine, n'est pas passé par de la somnolence, de la torpeur, de l'agitation, des émotions fortes, une mouche qui volait peut-être sur notre visage, un moment d'aversion avec l'odeur de l'égout, des évacuations qui étaient plus ou moins fortes, peut-être un bon mélange de tout ça, hein, de différentes choses. On apprend la patience d'être avec les choses, même si ce n'est pas exactement comme on aimerait. Alors la retraite, elle est vraiment chouette parce qu'elle nous offre un cadre vraiment très privilégié d'exploration de ça sur le coussin, mais aussi dans notre relation aux autres, dans la vie communautaire. Comment parfois on peut être irrité d'avoir quelqu'un devant nous qui marche de façon très méditative. Mais notre plan, c'était d'aller prendre un thé rapidement. Et on se retrouve à attendre que la personne avance. Et on rentre dans un dialogue intérieur de marcher plus vite et de montrer que nous ne sommes pas un bon méditant ou une bonne méditante, de pouvoir rester derrière en éprouvant cette sensation terrible de vouloir que ça aille plus vite. Nous avons beaucoup de files d'attente. Et je ne peux qu'imaginer quand peut-être vous êtes à quelques centimètres de l'oasis des repas délicieux de Philippe et Michel et que tout d'un coup, vous voyez émerger par la cuisine un, voire deux enseignants. Et là, le moment de libération se retarde. C'est fou toutes les opportunités que nous avons de pratiquer la patience, de nous entraîner ici pour, ben, quand on retournera dans le monde, pouvoir aussi le mettre en pratique. Alors moi, j'aime beaucoup chercher dans le pratique comment amener la méditation. Et c'est vrai qu'il y a une chose qui n'est pas facile, c'est tous ces moments d'attente. Quand on appelle les assurances, quand on appelle la banque. J'aurais pu nommer les impôts, mais il y a des gens qui sont à Genève, et puis à Genève, les gens aux impôts répondent vite, donc ça ne marche pas pour vous. Mais les Français comprennent que c'est des moments qui sont assez difficiles, pleins de dukkha, de résistance. Et alors, on pourrait transformer tous ces moments d'attente par une pratique. Vous voyez, un peu comme quand on se dit « Waouh, là, je vais pouvoir méditer, c'est génial, un temps pour moi pour méditer. » Mais de transférer ça au moment où on voit une file d'attente et se dire « Oh là là, génial, trop bien, j'ai de l'attente, ouais, je vais pouvoir méditer, quoi. » Ben en fait, la file d'attente, elle n'existe plus parce qu'il n'y a plus d'attente. Donc, il y a beaucoup d'opportunités dans le quotidien de pouvoir pratiquer la patience. Et de voir, évidemment, son opposé qui est l'impatience, de voir comment ça nous meut, de voir aussi pourquoi on court, comme questionnait Christiane Singer, de voir vers quoi on court. Ça, c'est très parlant, je trouve, dans la marche méditative aussi. On fait des allers-retours entre deux points. Et si par moment, on se perd dans nos pensées, tout d'un coup, on se rend compte que le rythme s'accélère, Charles en parlait un peu, notre corps se penche en avant. Comme s'il y avait une urgence d'atteindre le bout de notre aller-retour pour retourner en arrière plus vite. Quoi. On se rend compte quoi, qu'il y a cette tendance du corps à être projeté, même dans les assises, parfois à être déjà à l'avant, au point d'arrivée. Donc c'est des petits moments là, on peut... Waouh ! Mais vers quoi je cours ? Pourquoi il y a une impatience en fait ? Qu'est-ce qui m'amène à être déjà un peu plus loin alors que tout se passe ici ? Je crois qu'on cultive aussi la patience pour nous aider dans notre rapport à l'autre. Justement, je nommais ce rapport conflictuel au départ, et c'est extrêmement difficile quand on est dans une relation où il y a de la colère, de ne pas répondre par de la colère. Et le Bouddha, il en parle dans beaucoup de suttas de ça. Donc ça doit être quelque chose d'important, j'imagine, parce que sinon il ne serait pas attardé sur le sujet. Il y a un sutta qui est assez connu, qui raconte le Bouddha qui va mendier sa nourriture, hein, parce qu'il était renonçant, et donc ça faisait partie de sa vie de renonçant. Et un jour, il frappe à une porte, et la personne qui ouvre l'insulte. Il lui dit beaucoup de critiques, qu'il est ouais, un bon à rien, mais à mendier. Et le Bouddha, alors... au lieu de répondre en s'énervant par la colère, il s'arrête et il lui demande « As-tu déjà reçu des invités chez toi ?» La personne lui répond « Oui. » S'il refuse la nourriture, à qui appartient-elle ? Bien à moi. Alors le Bouddha lui dit « De la même façon que je n'accepte pas ta colère, tu peux repartir avec. » C'est vrai que c'est puissant, en fait. Si, face à la colère de quelqu'un d'autre, au lieu de... Voilà, on peut vraiment éprouver ça dans la méditation, sentir que ça monte, et que ce besoin irrépressible de répondre. Si on apprend à reconnaître ça, peut-être que, ben, quand on rencontre ça dans la vie quotidienne, on peut apprendre à marquer un temps de pause. Que Charles avait nommé hier entre la qualité de la présence sati qui nous permet de reconnaître et avec sampajanya qui est la compréhension claire qui nous permet le discernement de pouvoir justement discerner que ce n'est peut-être pas judicieux. Mais ça, il nous faut d'abord pouvoir le pratiquer pour pouvoir le reconnaître au moment où ça arrive. Parce que c'est vraiment cette qualité de l'impatience, elle est très rapide et c'est un besoin irrépressible qui monte en nous. C'est vrai que dans la langue française, on a une expression qui parle bien de ça, qui dit avoir la moutarde qui nous monte au nez. Et ça m'est arrivé de m'amuser de manger une cuillère de café de moutarde fine. Un peu bizarre, je sais. Mais vraiment cette sensation où ça monte d'un coup et puis en fait c'est irrépressible quoi. Et l'impatience, elle a cette qualité de ne pas pouvoir se retenir. Alors quand on marque une pause comme ça dans un échange avec quelqu'un avec de la colère, ben, ça nous permet aussi de voir la position de l'autre personne, de voir que l'autre personne peut-être elle est dans la confusion, ou peut-être qu'elle vit quelque chose de difficile. Ça nous amène aussi à éprouver la compassion et de pouvoir désamorcer un peu ce qui fait monter la moutarde. Voir le wasabi si c'est vraiment... Si vous êtes allé chez un japonais, vous saurez ce que c'est le wasabi. Mais ça peut être vraiment parfois très fort en fait. Donc pouvoir voir ça pour choisir aussi soit de répondre, soit de marquer un temps de pause et de choisir ses mots. De choisir peut-être de retarder le moment où on aura cette conversation. Ça demande beaucoup de pratique. Dans d'autres contextes, qui n'est pas forcément dans un échange, c'est pouvoir se demander est-ce que c'est vraiment utile que j'agisse de cette façon quand je sens que ça, voilà, y a une impatience à agir. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que le fait de devenir impatient, ça fera que ça ira plus vite? Donc la patience, c'est vraiment quelque chose qui s'apprivoise parce qu'on le rencontre, parce qu'on peut baigner dans l'impatience, parce qu'on reconnaît quand justement ça monte, cette impatience. Que ce soit donc dans la pratique avec nous-mêmes, dans le rapport à l'autre, et sur le chemin lui-même. C'est une qualité qui est importante sur le chemin parce que parfois on a des attentes de résultats, de progrès. Et puis c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, peut-être pas aussi vite. On voudrait voir une plus grande différence et puis parfois on peut être découragé. Donc il nous faut aussi cette qualité de la patience pour pouvoir cheminer. Dans un autre sutta encore, le Bouddha parle de traverser une rivière inondée. Il compare vraiment cette qualité qui permet en fait de continuer. Il y a une Devadatta qui vient l'interroger et qui lui demande « Comment as-tu traversé cette rivière inondée, Seigneur ?» Il répond « Je l'ai traversée sans m'arrêter, sans forcer. » À la question « Comment traverser sans s'arrêter, sans forcer ?» il explique « Lorsque je m'arrêtais, j'étais engloutie. Lorsque je forçais, je me faisais emporter. Ainsi, j'ai traversé sans m'arrêter et sans forcer. » Donc probablement, nous aussi, sur ce chemin de la pratique, nous pouvons faire comme le Bouddha, nous entraîner à pouvoir aussi être pris dans cette inondation, dans ce fleuve inondé. Et de cheminer grâce à la confiance que Patricia a pu nommer, de voir qu'il y a des fruits sur cette pratique aussi, qui nous permettent de maintenir ce chemin, d'avoir la patience sur aussi les résultats du chemin. Alors j'aimerais terminer avec une petite histoire qu'un ami américain qui s'appelle Biff Mithoffer a partagé avec moi, et que j'aime beaucoup, donc j'avais envie de la partager ce soir avec vous. C'était il y a des temps très très lointains. Dans l'Afrique, dans la jungle africaine, il y a un petit village qui se situe juste à côté d'une rivière. Et dans ce village, il y a une hutte où vit une femme nubienne. Cette femme, elle est d'une très belle beauté. Elle a la peau de la couleur du bois d'ébène. Elle a les yeux qui brillent d'intelligence, de compassion. Quand elle bouge, elle le fait avec beaucoup de grâce. Et son cœur est pur et il est ouvert. Dans ce village, les femmes portent un collier. Et cette femme nubienne, elle a aussi un très beau collier qu'elle a fait elle-même avec des morceaux qu'elle a trouvés au bord de la rivière, de bouts de bois, des os. Elle s'est fait un magnifique collier. C'est d'ailleurs le plus beau collier du village. Et évidemment, les femmes du village ont la jalousie pour la femme nubienne. Une fois par semaine, les femmes descendent au village laver leur linge. Et quand elles descendent au village, la femme nubienne marche et elle entend derrière elle des murmures. Les femmes qui rigolent et qui se moquent d'elle. Étant la femme qu'elle est, ça lui fait de la peine. Un jour, alors qu'elles étaient à la rivière, elle voit les femmes jouer. Et pour une fois, elle l'invite à jouer avec elle. Étant la femme qu'elle est, elle se réjouit de pouvoir jouer avec les autres femmes. Alors elle s'empresse d'aller avec elle jouer dans la rivière. Et assez rapidement, elle se rend compte qu'elles n'ont plus de collier. Alors la femme nubienne demande aux autres femmes du village pourquoi. Et l'une d'elles répond : aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est le jour de la rivière. Et ce jour, nous offrons nos colliers et nous les lançons au plus profond de la rivière. La femme nubienne, étant telle qu'elle est, s'empresse d'enlever son collier et le jette au plus profond de la rivière. Alors elle voit les autres femmes rigoler. Et elles lui disent « Que tu es sotte ! Nous avions seulement caché nos colliers dans les buissons qui sont derrière. » La femme nubienne est très triste. Elle s'apprête à retourner au village et elle entend une voix dans la rivière. « Plonge !» Elle s'étonne, elle attend encore et elle entend à nouveau « Plonge !» La femme nubienne étant qui elle était, décide de plonger. Alors elle va plonger au fin fond de la rivière. Elle va au plus profond de la rivière, là où c'est le plus obscur. Elle rencontre une femme, une vieille femme, dont l'apparence est hideuse. Elle est remplie de plaies et de puets suintantes. Alors la vieille femme s'adresse à la femme nubienne et lui dit « Lèche mes plaies, lèche mes plaies !» La femme nubienne étant qui elle était, va lécher les plaies de la femme. Et alors qu'elle fait ça, la femme se transforme et prend une autre apparence, une apparence magnifique. À ce moment-là, on entend en haut de la rivière des pas durs, profonds, pam, pam, pam. Alors la vieille femme dit à la femme nubienne, « Dépêche-toi, cache-toi sous ma robe, c'est le monstre de la rivière. Il a faim, il vient te manger pour son dîner. » À peine eut-elle dit ça que le monstre apparaît et il dit à la vieille femme « Où est la jeune fille? Je sens la chair fraîche, j'ai faim !» Alors la vieille femme lui répond « Tu arrives trop tard, elle est déjà partie. » Alors le monstre part, à la surface on entend les pas. « Pa, 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 pa !» Alors la vieille femme offre à la femme nubienne un sublime collier, un collier qui est serti de diamants et de rubis. Puis elle remonte à la surface, elle traverse toutes ces profondeurs. Avec son nouveau collier, elle retourne au village et quand elle arrive avec son nouveau collier, toutes les femmes veulent savoir d'où il vient. Alors elle commence à raconter « Je suis allée au fond de la rivière et j'ai rencontré une vieille femme ». Alors les femmes du village n'attendent pas la fin et se pressent à la rivière. Elles courent et elles se jettent dans l'eau. Elles plongent dans la rivière. Elles plongent profondément dans les eaux obscures les plus profondes et elles rencontrent cette vieille femme. Cette vieille femme à l'apparence hideuse avec ses plaies suintantes qui leur dit « Léchez mes plaies, lécher mes plaies. Alors les femmes du village disent, mais non, nous ce qu'on veut c'est juste un beau collier. Alors on entend à la surface les pas, bam, bam. Et le monstre de la rivière les mange toutes. Alors nous, en fait, je pense qu'on est un peu comme cette femme nubienne. On apprend un peu à lécher nos plaies. Elles ne sont pas toujours jolies. Ce n'est pas immédiat. Le résultat, ce n'est pas de recevoir le collier tout de suite. Mais on apprend à rencontrer cette obscurité du fond de la rivière. Et la patience, elle est aidante à nous soutenir dans cette rencontre. Je vais finir par quelques mots de Shantideva qui disait que la patience est une des plus grandes qualités, la plus grande dévotion.